J'aimerais ce matin, avec audace, présenter un message sur le Saint-Esprit avant même le mois de mai, le mois de juin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est pas un Saint-Esprit d'une date anniversaire, c'est un Saint-Esprit de tous les jours qui marche avec nous, qui est avec nous ce matin et qui veut se révéler au plus grand nombre ce matin, comme la parole de Dieu le dit, alors qu'ils étaient le jour de la Pentecôte dans Actes 2, les versets 1 à 4. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est notre cas ce matin. Et tout à un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais ce matin, juste m'arrêter sur ce passage qui est un passage historique, un fait où Jésus avait dit « il y a quelque chose de grand qui va venir après moi ». Jésus a même encouragé en disant « restez à Jérusalem, ne partez pas sans avoir reçu ce quelque chose qui s'en vient ». Et alors que ça arrive, c'est dans un épisode où dans le pays, dans la ville, il y a un événement qui rassemble des gens de toutes les nations aux alentours. Et alors que ces gens sont en train de parler dans d'autres langues, littéralement, il y a des discours qui sont là, puis beaucoup pensent, disant, oh, c'est quoi encore cette nouvelle affaire? Oh, on a crucifié un gars qui faisait le trouble, puis là, maintenant, on a des gens qui font n'importe quoi, qui parlent n'importe quoi, et il y a une grande pensée qui est là, c'est, ces gens sont sous. Probablement, ils ont trop bu, ils sont sous. Mais la réalité, c'est que ces gens parlaient des langues qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, mais qui étaient les langues de toutes les gens qui venaient des contrées avoisinantes, des gens sans éducation, sans expérience, qui parlaient d'autres langues. Et c'est à ce moment-là, dans cet événement-là, que Pierre va se présenter au chapitre 2, toujours du livre des Actes, et le verset 14 à 18. Pierre se présente avec les 11 et élève la voix en parlant en ces termes. Et il dira « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » Amen. Quelle merveilleuse étape dans la vie chrétienne que d'avoir reçu le Saint-Esprit. La Pentecôte, littéralement, aujourd'hui on n'est pas à la Pentecôte, mais je prêche la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, c'est la naissance de quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose qui nous est donné quotidiennement. L'envoi du Saint-Esprit, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Alors qu'ils ont la foi en Jésus, ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'envoi du Saint-Esprit, c'est quelque chose de nouveau qui prend place. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle puissance qui s'installe. C'est une possibilité d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle renaissance dans l'Esprit. Je veux dire ce matin ceci de la manière la plus simple. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance d'un jour, la Pentecôte, mais il est la puissance de chaque jour dans nos vies. Et nous avons besoin de lui pour marcher puissamment et grandir et avancer avec lui. La puissance du Saint-Esprit se renouvelle en nous en permanence afin que chaque jour soit une nouvelle Pentecôte pour nos vies. Chaque jour soit une nouvelle journée remplie de sa présence et remplie de sa puissance. Wow! La Pentecôte n'est pas un anniversaire qu'on fête une fois par an. La Pentecôte, c'est une relation qu'on construit et qu'on préserve jour après jour. Woo! Si vous découvrez la personne du Saint-Esprit comme elle est expliquée dans la parole de Dieu, vous ne pouvez plus vivre sans lui. Je vous dis, vous ne pouvez plus vivre sans lui. Jésus avait dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le mot grec, c'était le parakletos. Et la notion du parakletos, c'est je vais vous envoyer un conseiller. Je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer un guide, un avocat, un défenseur. Et ça, c'est tout ce qu'on veut dans nos vies. Soyons honnêtes, on veut tous quelqu'un qui nous conseillerait des meilleurs conseils que la terre ait jamais portés. Voici comment tu peux investir ton argent. Voici les relations que tu dois avoir. Ne va pas là, tu vas te faire du mal. Va plutôt là, ça va faire du bien à ton âme. On voudrait tous avoir quelqu'un qui nous prodigue les meilleurs conseils que la terre ait portés. On voudrait tous avoir quelqu'un qui nous console lorsque l'on est attristé, lorsque l'on est brisé, lorsque dans le secret de notre chambre, on est effondré en larmes, qu'on n'est même plus capable de se relever. On aimerait tous avoir quelqu'un qui tape sur notre épaule, qui dit « Je suis là, je t'abandonne pas, je suis avec toi, je vais te consoler. » On aimerait tous avoir quelqu'un qui nous défend lorsque l'on est discrédité, lorsque la méchanceté s'installe, la jalousie, la calomnie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce quelqu'un, conseiller, consolateur, guide, avocat, défenseur, il existe en la personne du Saint-Esprit. Il nous est donné afin que nos vies soient transformées et renouvelées. Le texte nous dit que la parole de Dieu dit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, des disciples peureux ont été transformés et ils ont impacté la face du monde à cause du Saint-Esprit. Wow! Moi, j'aime le livre des Actes et j'aime me rappeler que non, la Pentecôte n'est pas réservée à un week-end par an, mais la Pentecôte, je la vis tous les jours dans la présence du Saint-Esprit. Pierre conclut son discours en ces termes au verset 39 du chapitre 2. Il dira, la promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants, la promesse est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'annonce d'une promesse, une promesse pour tous, une promesse pour eux, une promesse pour moi, une promesse pour toi ce matin. Mais pour recevoir la promesse, tu dois la connaître et tu dois connaître l'auteur de la promesse. Tu dois connaître l'auteur de la promesse. Le théologien Anthony Okema a déclaré ceci. Il a dit, il n'y a rien dont l'Église ait davantage besoin que d'être remplie par l'Esprit de Dieu. Cette plénitude est la clé la plus importante d'une vie chrétienne victorieuse et d'un témoignage chrétien rayonnant. La question que nous développons ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? C'est le titre de mon message. La question, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? C'est une question que je pose ce matin, que je pourrais amener d'une nouvelle question. Qu'avez-vous fait du Saint-Esprit ? C'est la question que je pose, mais c'est la question que l'apôtre Paul posait lui-même aux Éphésiens avant même que j'adresse cette question. Cette question est dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 19. L'apôtre Paul lui-même va dire ceci. Alors, le texte nous dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et il leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Il répondit, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tellement bon de savoir que le Saint-Esprit a été donné. Tellement triste de savoir que certaines personnes n'ont pas la conception que le Saint-Esprit ait été donné. Tellement triste de penser que certaines personnes ont la conception que le Saint-Esprit n'est plus d'utilité. J'aimerais dire ceci de la manière la plus simple que je puisse dire. Considérer que le Saint-Esprit n'est plus d'actualité, c'est considérer que Dieu n'est plus d'actualité, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Alors nous avons besoin de Dieu, nous croyons que Dieu est d'actualité et que le Saint-Esprit est d'actualité. Mais nous concentrons souvent nos pensées et notre foi sur le Dieu créateur parce que nous voyons ce qu'il a fait, sur le Jésus, le Dieu sauveur, parce que nous reconnaissons ce qu'il nous a apporté. Mais nous oublions trop souvent le Saint-Esprit qui est le Dieu accompagnateur, le Dieu consolateur, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui marche à nos côtés jour après jour. Littéralement, nous oublions l'essentiel de ce qui est bon pour nos vies aujourd'hui dans la partie de Dieu. Le texte que nous avons cité met en lumière trois points. Le premier point, c'est que croire est la première étape et nous sommes ici parce que nous croyons, que nous avons cru et nous reconnaissons que Jésus est mort pour nous. La deuxième point, c'est qu'être baptisé d'eau te fait naître de nouveau. C'est un baptême de repentance. Mon passé est passé, mais ma nouvelle vie va commencer. Mais le troisième point que l'apôtre Paul dit, et c'est le meilleur des points, c'est que le Saint-Esprit est la part de Dieu, la part du Dieu trinitaire, qui va t'emmener plus loin que ton esprit peut voir, plus loin que ton esprit peut considérer, plus loin que ton esprit peut espérer, plus loin que tes capacités peuvent t'emmener. Nous avons besoin littéralement du Saint-Esprit pour être performants et pour maintenir la cadence dans nos vies spirituelles chrétiennes. Paul déclare aux Éphésiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ma question, et c'est la question de Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et quelle tristesse dans le cœur de Paul lorsqu'il entend cette réponse. Nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul va dire, mais vous en avez besoin, vous avez besoin de le recevoir, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé dans un but précis, celui d'être avec vous tous les jours de votre vie, celui de vous équiper, celui de vous protéger, celui de vous garder, celui de vous consoler. Dans son discours après la Pentecôte, Pierre cite le prophète Joël dans son discours. Et la prophétie du prophète Joël, elle était connue de tout le peuple. Il rappelle littéralement, voici, les gens ne sont pas sous, les gens sont simplement sous l'influence du Saint-Esprit, comme Joël l'avait lui-même annoncé. Et le texte dans Joël nous dit ceci, Joël 3, versets 1 à 3. Le texte de Joël nous dit que Dieu parle à travers Joël et dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, j'oublierai personne littéralement. » Il dit « En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Il y avait 400 ans avant, une annonce que Dieu était pour répandre son esprit, que Dieu voulait répandre son esprit. C'était la volonté de Dieu de répandre son esprit dans des prodiges, dans des phénomènes extraordinaires. Et littéralement, un fait extraordinaire, c'est un fait qui sort de l'ordinaire. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette phrase, je sais, mais c'est un fait littéralement qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'ordinaire. Alors que ce matin, on regarde ensemble au Saint-Esprit qui animait le discours de Joël 400 ans avant Jésus et qui annonçait « Il va venir, le Saint-Esprit, il va venir ». On regarde également au discours de Paul 400 ans plus tard qui annonçait « Il est là, le Saint-Esprit, il est parmi nous et il est pour tout le monde ». Mais on regarde au discours de Pasteur Seb 2000 ans plus tard après Paul qui dit « Il est toujours là, il est toujours présent, il t'attend toujours et tu peux à chaque instant entrer dans sa présence, tu peux réclamer sa présence en toi parce qu'il a pour toi le meilleur à venir ». Dieu ne nous appelle pas simplement à recevoir le Saint-Esprit. Il nous appelle à l'expérimenter, il nous appelle à le solliciter, il nous appelle à le partager, il nous appelle à le manifester, il nous appelle à le voir conduire nos vies dans l'impossible et l'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent impossibles dans ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des défis, des choses que tu dis c'est impossible pour moi que ça change? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu espères quelque chose? Tu dis c'est pas humainement pas possible pour moi que ça change. Est-ce qu'il y a dans ta santé, dans ton corps, dans ta famille, des besoins où tu te dis il y a besoin d'un miracle parce que humainement il n'y a plus rien qui est possible? Le Saint-Esprit peut te conduire dans l'impossible et l'extraordinaire. Alors qu'est-ce qui est extraordinaire? J'ai cherché sur Internet des faits extraordinaires. Et je suis tombé sur ce fait, cet événement, et je suis un peu fier parce que ça se passe en France, mais le texte nous dit ceci. En juillet 2011, un an après avoir sauté du premier étage de la Tour Eiffel en roller, oui, en France, on est comme ça. Me demandez pas c'est quoi l'utilité de sauter de la Tour Eiffel en roller, je ne le vois pas. Mais bref. En France, en juillet 2011, un an après avoir sauté du premier étage de la Tour Eiffel en roller, Tai Chris, sportif de l'extrême, devenait le champion du monde du saut en longueur en s'élançant de la butte Montmartre pour atterrir 25 mètres en contrebas. Les gens ont titré ce fait de « extraordinaire ». C'est sûr que quand on le voit dans les airs avec Paris en contre-plongée, on dit « c'est quand même extraordinaire ». Quand on voit la hauteur, on dit « c'est extraordinaire ». Mais moi, je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est juste un exploit sportif qui a été calculé courbe, vitesse, distance, réception. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On est tous en mesure de s'élancer de la butte Montmartre et de sauter pour atterrir 25 mètres plus bas. Ça, c'est certain. Bon, je l'accorde que pour beaucoup d'entre nous, moi le premier, la réception risque pas d'être la même. Non, ça c'est certain qu'il y a... On est censé avoir quelques fractures à l'arrivée. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je vais te lister des choses, des faits extraordinaires. Un Jésus qui vient visiter un mort que tout le monde pleure et qui va déclarer « il dort ». Mais non, il dort pas, il est mort. Lazare sort et le mort sortir du tombeau. Ça, c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Un Pierre qui ressuscite Tabitha. Ça, c'est extraordinaire. Un Paul qui est mordu par une vipère, que tout le monde regarde, tout le monde attend qu'il meure. Il va mourir quand? Il n'est pas encore mort, lui? Non. Mais quand est-ce qu'il meurt, lui? Non. Il ne meurt pas. Ça, c'est extraordinaire. Et un Pierre et Jean qui vont au temple, qui croisent un paralytique, qui veut juste une pièce. Il dit, on n'a pas d'argent pour toi. Ah, oh, quel dommage. Mais on a mieux. Lève-toi et marche. Le gars se lève et traverse et rentre dans le temple. Ça, c'est extraordinaire. Mais dans notre génération également, dans mes quelques années de ministère, des gens atteints de cancer agressif, incurable, totalement guéris parce qu'on a prié pour elles, qu'on leur a imposé les mains, des tumeurs qui ont disparu entre deux séances de radiologie. On ne sait même plus est-ce que c'est un fake, c'est pas un fake. Non, c'est pas un fake, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et où la tumeur? Il n'y en a plus parce que le Saint-Esprit agit. Ça, c'est extraordinaire. Nous parlons de prodiges annoncés par le prophète Joël. On n'est pas dans l'extravagance et dans les grands tralala, comme beaucoup sont dans l'excès avec le Saint-Esprit, bien sûr. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'excès. Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance, de rigueur, de précision. Et je crois que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui avec puissance et autorité. Nous parlons des prodiges annoncés par le prophète Joël, révélés par Paul aux Éphésiens. Si vous recevez le Saint-Esprit, je vous dis ceci pour vrai, il y a une dimension de puissance et d'autorité que vous pouvez expérimenter, premièrement dans vos vies, deuxièmement dans la vie des autres. Parce que l'Esprit de Dieu veut se répandre partout. Dieu, dans son amour, lance un appel à l'humanité pour offrir le Saint-Esprit afin de vivre une vie de puissance et de liberté. Merci, ma sœur, à la compassion de ma voix. Oh, merci. J'en avais plus. Quand je vous dis que le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui, le Saint-Esprit lance un appel, l'appel du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 3, le verset 7, c'est pourquoi selon ce que le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un appel de l'auteur aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tant que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, on ne peut pas prendre conscience de son appel. Et pourtant, le Saint-Esprit appelle. Pasteur Billy Graham a déclaré ceci, il a dit, « L'appel du Saint-Esprit est devenu un cri silencieux à l'intérieur de moi et j'ai répondu en suivant ma conscience. » Il y a un cri silencieux à l'intérieur de nous tous. Il y a un cri silencieux que le Saint-Esprit adresse, qui dit « Je veux me révéler à toi. Je veux me manifester en toi. Je veux grandir avec toi. » Il y a un appel silencieux. Mais répondre à l'appel du Saint-Esprit, ce n'est pas l'accomplissement de la quête, c'est le lancement d'un processus de vie. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, la Bible nous dit pas que, alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit, ouais, super, on est devenu courageux, on est devenu capable, mais restons entre nous dans la chambre haute, restons protégés. Non, la Bible nous dit que, de peureux qu'ils étaient dans la chambre haute, ils sont sortis comme des hommes affermis, des hommes transformés, littéralement changés, des hommes remplis d'audace, remplis de foi, remplis de courage, qui ont confronté l'opposition pour annoncer le nom de Jésus. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Lorsque nous répondons à l'appel du Saint-Esprit, nous n'avons pas reçu la quête suprême, mais nous nous lançons dans un processus de vie. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre vie, le Saint-Esprit nous appelle pour nous conduire et pour renouveler nos cœurs et nos pensées. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs, se révéler à nos cœurs et entrer dans nos cœurs. Nos cœurs sont par nature durs et inflexibles. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit continue de nous appeler, pour laquelle le Saint-Esprit presse, nous presse afin que nous puissions entendre sa voix. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs qui ont besoin de lui, besoin du Saint-Esprit pour changer. N'endurcissez pas vos cœurs. Il est celui qui vient presser nos cœurs, tantôt par une pensée, par une action, par une décision, qui va faire la différence dans nos vies. Et on ne sera plus les mêmes, on sera littéralement transformés. Nos vies vont être bouleversées comme ces disciples dans la chambre haute, qui vont passer de apeurés à affermis. Il y a quelque chose qui prend place lorsque le Saint-Esprit vient en nous. Il fait grandir notre foi, il nous fait ouvrir nos cœurs, il soigne nos cœurs, il purifie nos cœurs, il protège notre âme, nos pensées, nos cœurs tout entiers. Il nous conduit dans une relation avec Dieu dont il est l'intermédiaire parce qu'il vit littéralement en nous. Ouh ! Le message que nous adressons ce matin a une portée pour quelqu'un. Le message que nous adressons ce matin a une portée pour quelqu'un qui peut-être n'a pas connu, ne connaît pas de relation avec le Saint-Esprit. Ou peut-être quelqu'un qui a brisé sa relation avec le Saint-Esprit. Ou encore quelqu'un qui entend le Saint-Esprit du profond de son âme, mais qui refuse de répondre parce qu'il sait que ça va l'engager à perdre des choses qu'il ne veut pas perdre. Mais le Saint-Esprit nous dit, si seulement tu comprends que si tu m'acceptes, il y a tellement plus que ce que tu vas abandonner. Tellement plus. Le Saint-Esprit nous appelle et ne nous condamne pas. Il ne condamne pas notre silence. Il ne condamne pas notre attente. Lui-même attend patiemment que tu décides, je vais ouvrir mon cœur à l'Esprit de Dieu. Je vais ouvrir mon cœur pour que l'Esprit de Dieu me conduise, pour que l'Esprit de Dieu me guide, afin que je sois certain d'être et de demeurer sur le bon chemin. Lorsque nous acceptons et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous acceptons que ce soit lui qui conduise nos vies. Nous lui confions nos choix, nous lui confions nos désirs, nous lui confions nos pensées, nous lui confions nos passions, nos penchants, nos abus, nos excès. Nous lui confions nos vies tout entières afin de marcher dans une vie régie par sa pensée et son cœur. Heythouser a dit ceci. Il a dit, l'homme extérieur peut être guidé par des raisons, mais seul l'homme intérieur est dirigé par le Saint-Esprit. Suis-je un homme extérieur ? Ou suis-je un homme intérieur? Suis-je guidé par mes raisons ou suis-je guidé par le Saint-Esprit? J'ai besoin de réaliser que Dieu m'appelle à devenir un homme intérieur, dirigé par le Saint-Esprit. J'aime particulièrement la parole de Dieu et le psaume 51 est pour moi un psaume tellement beau. Souvent, je cite ce psaume, c'est un psaume de David, qui est un psaume qui a été écrit avec une telle sincérité, une telle honnêteté. Et alors, lorsque je lis le psaume, des fois, je me rends compte que les psaumes sont avant tout des prières. Et lorsque je lis ce psaume, il y a une telle sincérité, une telle honnêteté de la part d'un homme qui était guidé par ses raisons. Ces raisons qui l'ont conduit à faire des choses abominables. Et le texte nous dit que le psaume 51 a été écrit alors que David a commis le péché d'adultère et qu'il a pour justifier son adultère, il a fait tuer l'époux de la femme avec qui il avait couché. Et alors que son péché est dévoilé, mis devant ses yeux, le texte nous dit, la Bible nous dit que le psaume 51 est alors rédigé par David. Et voici le psaume 51. Il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités et la clé de sa prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce qu'on peut considérer que lorsque David adresse cette prière, c'est comme si littéralement David disait, si seulement le Saint-Esprit pouvait exister, si seulement le Saint-Esprit pouvait être en moi, si seulement son esprit pouvait demeurer tellement ancré en moi qu'il m'empêcherait de marcher sur les voies du péché, qu'il m'empêcherait d'aller vers les raisons de mon cœur, mais qu'il me conduirait toujours vers le cœur de Dieu afin de ne plus pécher et de continuer à marcher dans la perfection. Est-ce qu'on est conscient que David littéralement réclame, Seigneur, si le Saint-Esprit pouvait exister, mais Jésus a dit, non seulement il va exister, mais il arrive, il s'en vient. Paul a dit, il est là. Et moi, je vous dis aujourd'hui, il est encore là et il nous attend afin de pouvoir changer nos cœurs et transformer nos pensées. Littéralement, David était le roi aimé de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David fait un constat. David dit, je reconnais tes désirs pour ma vie. Je réalise que je suis incapable de faire le bien quand je suis seul. J'ai besoin d'une aide, j'ai besoin d'un soutien. J'ai besoin d'un soutien qui me vient d'en haut. J'ai besoin d'un cœur pur, j'ai besoin d'un esprit bien disposé pour aller de l'avant. J'ai besoin de laisser mon esprit pécheur qui sert mes intérêts et ma convoitise. Seigneur, je veux recevoir ton esprit qui lave et qui purifie, qui restaure ce qui est brisé, qui efface les iniquités, qui efface la source de mon péché. David priait littéralement pour une œuvre de renouvellement en lui, pour une volonté de Dieu de le voir se conduire dans une nouvelle vie afin d'être protégé et gardé du péché. Mais cette œuvre aujourd'hui, elle est ouverte pour chacun de nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ce matin, à l'image de David, je veux prendre conscience de la réalité. La réalité, c'est que soit je laisse son esprit régler ma pensée, soit je laisse mon esprit dérégler sa pensée. Soit je vais décider de laisser son esprit, Saint-Esprit en moi, vient régler ma pensée, afin que je sois toujours focus sur le cœur du Père. Soit je vais laisser ma pensée, une pensée conduite par mes raisons, mes désirs, dérégler la pensée de Dieu en moi et me conduire littéralement dans le péché. C'est un choix, encore une fois, c'est un libre arbitre que Dieu nous donne. Je décide d'accepter ou de rejeter ma destinée avec le Saint-Esprit. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il n'avait jamais péché, mais parce qu'il savait reconnaître ses fautes et réclamer le secours et la rédemption à Dieu. Et de la même manière, recevoir et accepter le Saint-Esprit, c'est accepter de renoncer à nos désirs, à nos envies, pour le suivre et le servir. C'est dire non à l'homme extérieur conduit par ma raison et inviter l'Esprit de Dieu pour devenir l'homme intérieur qu'il conduit par son onction. Nous avons besoin de prendre en considération le plan et les attentes de Dieu et la volonté du Saint-Esprit pour nos vies. Souvent, on est toujours prêt à recevoir le Saint-Esprit parce qu'on veut un Saint-Esprit protecteur. On veut quelqu'un qui va nous protéger. On veut un Saint-Esprit consolateur. On veut quelqu'un qui va nous consoler. Mais on ne veut pas d'un Saint-Esprit conducteur. On veut bien être aidé, mais on veut continuer à se diriger par nous-mêmes. Et ça, c'est la plus grosse problématique. Parce que littéralement, ça revient comme à vouloir le bon et laisser le mauvais. Sauf que c'est pas, y a pas de mauvais dans la personne du Saint-Esprit. Le bon, c'est que c'est un consolateur. Le bon, c'est que c'est un sauveur. Le bon, c'est que c'est un Seigneur. Il est toujours pour nous le meilleur. Si tu veux être en sécurité et bien protégé, tu dois accepter que le Saint-Esprit puisse contrôler et diriger ta vie. C'est un défi. C'est un défi et je dirais même parfois, c'est une épreuve. C'est une épreuve, pourquoi ? Parce qu'on ne veut jamais perdre le contrôle de nos vies. On pense toujours que si on ne dirige pas nos vies, on va aller dans le mur. Et la réalité, c'est qu'on traverse mur après mur sans se rendre compte que si on marchait avec le Saint-Esprit, on irait beaucoup moins dans les murs et on irait beaucoup mieux sur la bonne voie. Nous avons besoin de réaliser cela, c'est un défi. Et nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu conduire nos vies. Vous savez ce que je fais, moi? Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'avion, puis je prends souvent l'avion, et je n'aime pas l'avion, j'ai horreur de l'avion. Mais qu'est-ce que je fais pour me rassurer? Je me mets toujours au niveau de... J'arrive très en avance, et je me pose au niveau de l'embarquement, parce qu'il y a toujours, à peu près une heure avant toi, tu as l'équipage qui rentre. Et moi, mon truc, c'est que je veux voir la tête des pilotes. Ça n'a pas de sens, je vous l'accorde. Ça n'a aucun sens, mais ça me rassure. En fonction de la tête du pilote, tu dis, oh, ça va bien se passer. La réalité, c'est que quelquefois, quelquefois, je suis là, j'attends, je vois les pilotes passer. Ça m'angoisse encore plus. Je me dis, peux-tu nous amener à bon port? C'est ma façon à moi de dire, je vais me rassurer. Mais est-ce qu'on s'entend que lorsque je suis dans l'avion, je contrôle plus rien? Je contrôle rien, quoi qu'il en soit, que le pilote ait une bonne tête ou une mauvaise tête, il fait sa job, il décolle, il atterrit, tout se passe bien. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit conduire nos vies. Il sait où il veut te faire décoller, il sait où il veut te faire atterrir, il sait que le voyage va bien se passer. Nous avons besoin de décider, Saint-Esprit, viens conduire ma vie, viens prendre les commandes de ma vie. David, quand il écrit le psaume, il est parfaitement conscient que ce qu'il demande à Dieu, viens créer en moi un cœur pur, viens mettre ton esprit en moi. Il est conscient qu'il ne va plus contrôler les situations de sa vie, mais c'est ça que David veut, c'est ça que David réclame, et c'est notre prière ce matin pour le Saint-Esprit. Viens contrôler, David ne veut plus contrôler les situations. Il a fait l'analyse de sa vie et il dit, voici, selon moi, avec moi, je subis mon iniquité, je vis dans mon péché, je transgresse les lois, mon péché est constamment devant moi, mais je t'appelle toi, Dieu, j'appelle ton esprit dans un moment de grand effroi devant toi. Je veux que tu mettes ton esprit en moi afin de faire pénétrer la sagesse en moi, afin de faire pénétrer la pureté en moi, afin d'être lavé et que voir mes iniquités être effacées. Marcher avec le Saint-Esprit, ça ne te conduira pas où tu veux aller, c'est certain, mais ça te conduira où tu as besoin d'être enseigné. Ça te conduira où tu as besoin d'être protégé. Ça te conduira où tu as besoin d'être restauré. Ça te conduira où tu as besoin d'être aimé, là où tu as besoin d'être gardé. Le Saint-Esprit sait exactement où il doit t'emmener. Mais la question ce matin, est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux y aller? Ton esprit, tes désirs sont naturellement conduits par le péché et l'iniquité. Et le Saint-Esprit et ses projets sont naturellement conduits par Dieu pour te conduire dans la sainteté. Le Saint-Esprit n'est pas une option que nous pouvons négliger. Il est la pierre angulaire pour une vie spirituelle épanouie et dynamique. Il est une nécessité, c'est mon point de conclusion ce matin, la nécessité du Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une option dans la vie chrétienne, il est un impératif. Un toit ouvrant sur une auto, c'est une option. Un coffre électrique, une malle électrique sur une auto, c'est une option. Un volant et des freins, ce n'est pas des options. Nous avons besoin, sur nos voitures, d'avoir des volants et des freins. Des volants pour nous guider, des freins pour savoir nous arrêter. Le Saint-Esprit dans nos vies, c'est le volant et les freins de ta vie spirituelle. Saint-Esprit, c'est le volant et les freins de ta vie spirituelle. Il n'est pas une option, il est un impératif, une nécessité. Et c'est pourquoi Jésus lui-même va annoncer la venue du Saint-Esprit. Et alors, ce qu'il va l'annoncer, il va dire « Recevez le Saint-Esprit, ne vous privez pas de cette bénédiction, envoyée du ciel pour vous. Ne faites rien sans l'avoir préalablement reçu, car il vient pour vous rendre fort, il vient pour changer vos façons de voir, il vient pour changer vos façons de concevoir. Ne pensez pas être capable d'aller loin sans lui, parce qu'à la première difficulté, vous allez caler et vous allez vous arrêter. C'est une réalité, mais lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous sommes toujours en mesure de progresser, toujours en mesure d'avancer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui décidons. Nous faisons qu'aller là où le Saint-Esprit veut nous emmener. Jean 20, versets 19 à 22, nous dit ceci. Alors que Jésus a été crucifié, alors que Jésus a été enseveli et que le tombeau a été ouvert, que Jésus n'est plus là, la suite nous dit que Jésus commence à se révéler à plusieurs. Et alors, s'il commence à se révéler à plusieurs, le texte nous dit dans Jean 20, le verset 19 à 22, que le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Je m'arrête juste un instant pour dire que voici quelle était la condition des disciples avant même la venue du Saint-Esprit. Les lieux où ils se trouvaient étaient fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils jouaient littéralement leur vie. Ils étaient comme presque condamnés à mort parce qu'ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Et ils étaient angoissés, apeurés. Ils s'étaient enfermés pour continuer à se réunir. Mais Jésus vient et se présente au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Et il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Puis il va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Avant même que le Saint-Esprit vienne, Jésus leur annonçait déjà, recevez le Saint-Esprit. Et pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais juste conclure ce matin mon message. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il y a un appel pour chacun d'entre nous ce matin. Il y a un appel pour découvrir le Saint-Esprit. Il y a un appel pour renouer avec le Saint-Esprit. Il y a un appel pour céder au Saint-Esprit. Nous avons besoin de réaliser que le Saint-Esprit nous appelle, que le Saint-Esprit presse nos cœurs et qu'il y a tellement de choses que nous ne sommes pas capables de faire que nous pouvons réaliser si nous décidons de céder à l'appel du Saint-Esprit. C'est un appel que Jésus a lancé lui-même avant d'être élevé. Le texte nous dit, il leur dit et il nous dit ce matin, recevez le Saint-Esprit. Et c'est le même appel que Paul déclare aux Éphésiens. Il dira, Jean baptisait le baptême d'eau. Il restaurait la connexion entre Dieu et les hommes. Mais moi, je vous parle d'un baptême qui vous donne la puissance, l'autorité, la force d'avancer. Charles Stanley a dit, nous ne pouvons pas avancer d'un pas sans la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous ne pouvons pas, parce qu'il est notre force, il est notre guide, il est notre réconfort dans tous les aspects de notre existence. Ce matin, je t'invite à entendre l'appel du Saint-Esprit, à le laisser te conduire afin de recevoir la puissance qui fait la différence. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, c'est la parole que Jésus a donnée aux disciples. C'est la parole que nous vous apportons ce matin. Sommes-nous prêts ce matin à céder à l'appel du Saint-Esprit? Sommes-nous prêts ce matin à renouer avec la personne du Saint-Esprit? Sommes-nous prêts ce matin à capituler avec la pression du Saint-Esprit? Pendant que nos têtes s'inclinent, nos yeux se ferment, qu'on se tient dans la présence de Dieu, ce matin, j'aimerais, de la manière la plus simple du monde, non pas poser la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» mais donner l'affirmation comme Jésus l'a fait ce matin, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit parce que vous en avez besoin pour aller plus loin. Recevez le Saint-Esprit parce que vous en avez besoin pour surmonter vos doutes, pour surmonter vos craintes. Recevez le Saint-Esprit parce que vous en avez besoin pour restaurer vos âmes, vos cœurs brisés, vos cœurs meurtris. Recevez le Saint-Esprit parce que vous en avez besoin pour vos guérisons physiques, pour vos cœurs chargés, pour vos peurs, pour vos doutes, vos angoisses, pour vos découragements. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit pour comprendre vos difficultés et apprendre dans vos épreuves. Recevez le Saint-Esprit pour rester confiant au milieu du tourment. Recevez le Saint-Esprit pour accomplir les grandes choses, pour expérimenter sa puissance. Recevez le Saint-Esprit pour réaliser que Jésus demeure présent en vous à chaque instant. Ce matin, comme une prière, comme David qui s'adresse à Dieu, ce matin, est-ce qu'on peut élever un chant comme une prière qui s'adresse vers le Père? Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta présence. Alors que nous sommes là ce matin devant toi, alors que nous recevons ce message, alors que nous comprenons qu'il y a tellement plus lorsque nous te laissons les rênes de nos vies. Seigneur, donne-nous de comprendre que la Pentecôte n'est pas une relation d'un jour. La Pentecôte est une puissance de chaque jour. Seigneur, on est là ce matin devant toi et nous prions. Inonde ce lieu de ta présence parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de ta présence. Viens porter dans nos cœurs une nouvelle révélation. Viens souffler sur nos vies. Alors que nous sommes là, les bras ouverts, les cœurs ouverts, Seigneur, nous disons, remplis ce lieu de ta présence. On a tellement besoin de toi ce matin. Seigneur, remplis ce lieu.